Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Allez, c'est parti, prenez place, ajustez bien vos écouteurs, montez le son, c'est l'heure de fin de séance, épisode 24, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine sur Séance Radio et depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche cette semaine, deux longs métrages qui donnent le coup d'envoi des films de Noël dans un planning très chargé du mois de décembre, puisque nous allons parler, pour débuter, d'Astérix, le secret de la potion magique, le nouveau film signé Alexandre Astier et Louis Clichy, et puis de Mowgli, nouvelle adaptation en prise de vue réelle et en performance capture, signée Andy Serkis sur Netflix. Avec moi, eh bien, j'ai trois Gaulois réfractaires, n'est-ce pas, Pierre Delors, bonjour. Comment vas-tu ?
Eh bien, je m'excuse d'avance pour cette toux que vous allez entendre en fond pendant le podcast.
Non,
je suis un peu malade.
Mais non, tu ne vas pas tousser, tu es en pleine forme. Tu es en pleine forme, n'est-ce pas ?
Oui,
sur moi,
bien
quand
sûr.
Même, tu vas pas nous lâcher. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr sont également des nôtres, ça va ?
Hello, bah oui, ça va, on résiste à l'envahisseur de la sobriété.
De la sobriété, d'accord.
Moi, je précise que je suis tombé dans la critique magique quand j'étais petit, mais c'est Ilan qui m'a poussé, donc c'est lui le fautif.
Ouais, ça compte pas.
D'accord. Bon, on va attaquer avec Astérix, le secret de la potion magique. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout de suite les avis des spectateurs en sortie de salle. C'est parti.
Bon. Cette mission, c'est quoi ?
C'était très bien, parce que c'était très drôle. Et puis, pour une fois, ça changeait un peu des autres, parce qu'il y avait un vrai méchant, hein, qui avait vraiment l'air d'un méchant. Et puis, c'était très drôle, et comme tous les Astérix. Hein, voilà.
Moi, je trouve que c'est bien aussi pour les adultes, parce que justement, il y a plein de clins d'œil à des films existants.
Ça faisait peur.
Ouais, parce qu'il y a un vrai méchant et qui lui a fait un petit peu peur.
Ah, oui.
Mais elle est plus jeune aussi, c'est pour ça. Bon. Mais elle a bien aimé. T'as bien aimé la petite fille. Comment s'appelle la petite fille?
Je sais plus.
Pectine.
Pectine.
Ouais. Ouais, elle est trop mignonne.
Beaucoup d'action, beaucoup d'humour. Enfin, il y avait un peu de tout et du coup, c'était un très bon film.
J'ai beaucoup apprécié le film. Ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes, avec certaines références d'adultes. Ça reprend les classiques, les grandes lignes de DBD et c'est un film pour tout public. Je trouve que la voix est trop vieille. Pour Astérix. Et trop reconnaissable. Et Christian Clavier, pour moi, ça me fait penser à ces vieux films et je trouve que ça correspond pas au personnage d'Astérix.
C'était moyen, c'était acceptable. Je suis venu surtout pour la nostalgie, en fait, parce qu'avant, je regardais pas mal quand j'étais petit Astérix. Donc j'ai retrouvé un peu ce qu'il y avait, enfin, l'humour et un peu l'histoire qu'il y avait et l'esprit qu'il y avait avant. Mais sinon, en termes de graphique et de contenu, c'était un peu limite. C'était pas assez, en fait. Il y a un tout petit peu d'humour, mais pas assez pour un adulte, en fait.
Bon, bah, des avis très contrastés hein, pour Astérix. Les enfants sont plutôt conquis, les parents aussi, les papas, qu'on a entendu. Par contre, les adultes, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus mitigé. Hein. On a entendu Ayman à la fin du micro-trot, là, qui nous dit un petit peu d'humour, mais pas assez pour un adulte. Il n'a pas tellement trouvé son compte dans ce film-là. Alors, en ce qui me concerne, moi, celui de 2014, Le domaine des dieux, j'avais plutôt apprécié, et celui-là, scénario original, donc, signé Louis Clichy et Alexandre Astier, donc pas une adaptation. Mais écoutez, moi j'ai plutôt aimé le film, vraiment, je trouve que l'angle plutôt magie, druide, tout ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi là, techniquement le film, qui est un peu plus cartoon que je trouve que le précédent. Alors voilà ce que j'en pense en une phrase, hein, on va y revenir, on va développer. Qui veut enchaîner ? Pierre ? Sulfurix.
Pardon, bah Sulfurix, c'est bien d'en parler parce que justement le film n'est pas une adaptation d'une des bandes dessinées, mais c'est un scénario original. Mais il reprend quand même quelques grandes lignes de certains albums. Sulfurix, il est très inspiré par le personnage du devin, donc dans l'album Le Devin, si jamais vous l'avez lu. Il y a des éléments qui rappellent le coup du menhir, qui rappellent le tour de Gaulle. Il a quand même mélangé un petit peu différents aspects des albums d'Astérix. Alors, sur cette tonalité, sur l'humour, moi, je vais déjà donner mon sentiment sur le film. J'ai pas trouvé ça mauvais. Ça se regarde sans déplaisir, mais grosso modo, j'en garde pas grand-chose. Je me suis ennuyé un peu à certains moments. Je vais citer mon frère qui m'a envoyé un texto en sortant de la salle et qui m'a dit « Bon, c'était sympa, mais sans plus ». C'est exactement ce que j'ai pensé. Il y a des bonnes choses, notamment techniquement. C'est vrai que Louis Kilichi, c'est un ancien de Pixar et ça sent qu'il y a une maîtrise de l'animation que n'ont pas d'autres films animés français. Il y a aussi une technique un peu hybride que je trouve très intéressante. Alors on peut évidemment regretter que le film soit pas de l'animation traditionnelle comme les anciens Astérix. C'est des images de synthèse parce que c'est comme ça aujourd'hui. Simplement, de temps en temps, il y a une espèce d'aspect 2D, ce qui est peut-être l'aspect cartoon qui t'a, qui t'a frappé.
Quand il y a le feu, par exemple.
Ouais, voilà. Texture en 2D. Ouais. Et qui font texture 2D. Parfois, il y a des arrière-plans aussi qui sont. On voit des paysages de montagne qui font très 2D. Il y a un rendu comme ça dans les yeux ou certains effets de fumée. Après, je trouve que l'histoire tient pas vraiment la route. Moi, j'ai trouvé. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que comme Alain Chabat avait fait son Astérix, qui était vraiment un Astérix d'Alain Chabat, ça n'avait pas grand-chose avec la bande dessinée de Uderzo et Goscinny. Là, pour moi, c'est exactement pareil. Ça n'a absolument rien à voir avec Astérix. C'est l'humour d'Alexandre Astier, c'est l'humour de Kaamelott. Il y a tous ces doubleurs, il y a les mêmes vannes, la même manière d'écrire. Il y a des clins d'œil à Kaamelott. Et moi, en tant que grand fan d'Astérix, personnellement, ça m'a déçu. Je trouve que voilà, ça pourrait être remplacé. L'histoire, grosso modo, elle pourrait être remplacée par à peu près n'importe quoi.
Et tu trouves que le ton d'Alexandre Astier, il s'inscrit pas dans une certaine filiation, justement, de Uderzo Goscinny?
Mais c'est ce que beaucoup trouvent. Moi, je trouve pas du tout. Goscinny, ça, enfin, pour moi, c'est pas ça. Notamment dans l'humour qui est très différent, parce que Goscinny, c'est un humour qui est, entre guillemets, plus simple et plus universel. Et notamment, avec des jeux de mots extrêmement astucieux, très recherchés, presque poétiques. Alors que là, c'est l'humour un peu... Avec des grosses guillemets, franchouillard, paysan de Kaamelott. D'ailleurs, c'est ces mêmes doubleurs. Et le moindre personnage peut pas s'empêcher de oh alors machin et de parler comme ça. Et c'est Alexandre Astier. C'est pas pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est pas Astérix. Mais en soi, si tu veux, c'est pas très grave. Ce que je reprocherais, c'est que c'est déjà un film qui s'appelle Astérix, mais où Astérix c'est un personnage secondaire qu'on voit pas beaucoup. Je comptais les scènes dans lesquelles il était là ou pas là pendant le film, et il est vraiment très peu là. C'est un personnage secondaire, il ne fait pas grand chose. Idéfix est quasiment jamais là. Obélix, je trouve pas qu'il soit très bien doublé, et c'est pareil, il est assez absent. Le film est centré sur Panoramix et des personnages secondaires qui dans la BD sont toujours peu explorés, parce qu'en soi ils sont pas forcément très intéressants, notamment les personnages du village gaulois qui sont là pour des gags. Là ils sont tout le temps là pendant toute l'aventure et je trouve pas qu'ils soient particulièrement passionnants. Et je dirais même que l'histoire a pas grand sens, parce que Panoramix, il peut plus marcher, il se dit bah tiens, s'il m'arrive quelque chose, il faudrait que quelqu'un sache faire la potion magique à ma place. Donc du coup il parcourt la Gaule. Alors bah déjà, pourquoi il parcourt la Gaule alors qu'il peut plus marcher? Il aurait fait venir les gens à lui pour faire passer un casting, ça aurait été plus simple. Mais surtout parce que ils avaient envie d'amener de l'aventure, mais je trouve que ça tient pas la route. Du coup il rencontre ce personnage doublé par Alex Lutz, qui est un druide prometteur, mais au final qui sert absolument à rien, parce que dans les premières minutes de film, on te montre un personnage que je vais pas dévoiler, mais on comprend tout de suite ce qui va se passer à la fin. Et en fait, pendant tout le film, je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça? Puisque la réponse était au début, dans les premières minutes du film, et j'ai vu l'histoire se dérouler en sachant très bien qu'elle servirait pas à grand chose, et que la réponse nous était donnée à 3 minutes du film, tu vois.
Mais c'est quoi ça? Enfin, oui, d'accord.
Et d'ailleurs, et pardon, je termine, et ça se conclut par une espèce de grande scène grandiloquente,
impressionnante. À la Moana un peu.
Ou à ce qu'a fait récemment Batman Ninja, qui brise les codes pour aller dans le délire total. Et c'est pareil, ça pourrait être tiré de n'importe quoi. Je trouve pas que ça ressemble particulièrement à Astérix. Alors, faut que ça évolue, c'est aussi ça. Le film parle de la transmission, mais au final, c'est pas véritablement le message, puisque ça sert à rien d'aller chercher au loin la réponse et d'amener du nouveau sang, puisque tout était là à la base, et autant rester entre soi.
Ok, bon, allez, à toi, Julien.
Non, je suis plus ou moins d'accord avec toi, parce qu'en fait, je trouve que l'humour d'Alexandre Astier rejoint Uderzo et Goscinny à sa sauce, mais Chabat déjà le faisait. Il avait intégré l'esprit Canal+ dans Mission Cléopâtre, et qu'est-ce que c'était un peu l'esprit Canal+? C'était un peu
l'esprit nul, plutôt, enfin, si on peut définir.
C'est ce qu'on a appelé l'esprit Canal+. Ouais, ouais. Dire c'était un peu tout l'humour qui irriguait la comédie française, oui, dans les années 2000, au début des années 2000. Et en fait, c'était une version un peu modernisée de Goscinny et Uderzo. Donc moi, ça m'avait un peu plu. Et là, je trouve que Astier, ça lui va plutôt bien, en fait, parce que je trouve que c'est, ça va dans ses références, en fait, par rapport à Kaamelott. Parce qu'on parle souvent de Kaamelott comme la série geek française. Mais quand même, Astier se référence quand même beaucoup plus de Louis de Funès et de ce genre de référence. Donc moi, je trouve que ça lui va bien dans ce contexte-là. Je trouve qu'il avait fait du bon boulot sur Le Domaine des Dieux, qui était une BD que j'aimais beaucoup parmi les albums d'Astérix, et que je trouvais qu'il en avait fait une bonne adaptation. Par rapport à tous les films qu'on a eu après Le Chabat et tous les films
c'était
d'animation.
C'était dur après, hein, les films en plus de Vurel après
Cléopâtre. Et puis tous les films d'animation qui commençaient à être un peu pas terribles. Enfin, j'ai pas vraiment vu les derniers, mais je crois que le dernier, c'était Les Vikings.
Ils avaient adapté Astérix et Normand,
Donc là, je trouve que on part vraiment d'une bonne idée, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse très peu en fait à Panoramix et à toute la mythologie autour de la potion magique et des druides. C'est de mémoire comme ça, je me rappelle que c'est à Serpe d'Or qu'on en parlait un peu. Mais les autres albums sont passent vraiment au-dessus. Et là, je trouvais que c'était une bonne idée de départ. Il réussit à mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, un peu, je veux pas dire Me Too, mais le côté il y a le côté avec la petite Pictine, la petite fille, tu sais déjà quel rôle elle va avoir dans le récit et quelle va être la finalité. J'ai trouvé ça plutôt ingénieux. Après, moi, c'est un peu la fin qui m'a gêné, où justement, comme tu disais, avec cette fin un peu à la Batman Ninja, comme on parlait, mais là qui fonctionne pas vraiment. On a l'impression qu'ils avaient un bon cavenas de départ, qu'ils ont su développer ça sur les deux tiers du film, et après, ils étaient un peu perdus. J'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Ils se sont dit, mais comment on va finir notre film? Et ça part un peu dans des délires qui.
Moi, je trouve ça cohérent.
Oui, moi, ça m'a pas.
J'ai pas trouvé ça incohérent, mais j'ai trouvé ça plus faible que les deux premiers tiers, en fait.
Pierre. Juste avant que tu parles. Et ils ont un méchant, donc apparemment, qui a fait peur. Et c'est normal, je peux comprendre. Il y a des scènes qui peuvent faire peur aux enfants, qui au début commencent pas mal, ce méchant qui est très inspiré du devin. Mais alors, je trouve qu'au final, ses motivations, on les comprend pas du tout. Moi, je trouve que c'est un méchant qui est complètement changeant en permanence.
Qui perd un peu d'ampleur à la fin.
Et qui perd de l'ampleur, mais surtout qui part dans tous les sens. Et puis finalement. C'est son profit, puis en fait non, puis il trahit, puis il revient, puis il veut sauver le monde, puis en fait non, finalement c'est les Romains, puis les Gaulois. À mon avis,
il a surtout un bail avec Panoramix, quoi.
À mon avis, je pense que le grand public n'a rien pigé aux motivations du méchant. Je pense que les enfants n'ont rien compris. Et d'ailleurs, les anciens films d'animation d'Astérix, sans vouloir faire du passéisme, mais étaient sans doute dans une écriture plus simple et plus limpide pour tous les publics. Et je pense sincèrement que les gamins se sont marrés aux gags visuels, qui sont quand même assez basique, assez attendu, même si parfois ça fonctionne. Mais par contre, ils n'ont rien pigé au dialogue et qui sont hyper astiers et parfois avec des mots qui sont, à mon avis, beaucoup trop compliqués pour un jeune public.
Ilan, allez. En même temps, moi, ça ne me dérange absolument pas qu'un mec comme Astier se réapproprie l'univers d'Astérix, parce que s'il y avait un mec qui pouvait le faire, c'était lui. Donc, voir son univers avec celui de Goscinny et d'Erzo, je trouve ça plutôt logique. Ça peut créer certaines frustrations au niveau de l'humour, parce que ce n'est pas forcément le même humour, ce n'est pas forcément les mêmes sous-textes. Il y a quand même ce même attrait, on va dire, pour l'anachronisme et les doubles niveaux de lecture. Donc, je trouve que le mariage est plutôt réussi. Je suis d'accord avec Pierre sur l'intrigue qui est assez faiblarde, effectivement. Pourquoi faire le tour de la Gaule alors qu'il aurait pu organiser un casting type la Gaule a un incroyable talent? Ça aurait pu le faire, mais on s'aurait un peu écorté le truc.
Et qui peut plus marcher normalement.
C'est une phrase prête à confusion dans un autre contexte.
J'ai de sortir plein de phrases qui vont prêter à confusion concernant Astérix. Prépare-toi. Moi, je suis pas ultra enthousiasmé comme ont pu l'être les premiers retours, parce que je me souviens des premiers retours sur cet Astérix. Ah, c'est vachement bien, c'est la meilleure adaptation d'Astérix depuis Chabat, tatati, tatata, c'est encore mieux que le Domaine des Dieux. Non, moi je trouve que c'est, en termes de qualité, c'est équivalent au Domaine des Dieux, que j'avais apprécié, que je trouve.
Mais sans plus, quoi.
Non, c'est pas sans plus, non, le Domaine des Dieux, ça a soufflé un vent de fraîcheur un peu sur Astérix, et ça en avait bien besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, Julien l'a dit tout à l'heure sur les adaptations cinématographiques.
Bah, production française, monsieur.
Micro-image,
qui
sentait le pâté sans vouloir faire le mauvais jeu de mots.
Oui, vas-y, continue.
Je peux, merci.
J'en vois qu'ils sont catastrophés autour de moi.
Je suis on a l'habitude, c'est pas grave. Ouais, vas-y.
Donc c'est réserve sur l'intrigue, sur l'esprit. Pas du tout, parce que moi j'ai trouvé ça plaisant, mais effectivement il y a des faiblesses au niveau de l'intrigue, au niveau de la manière aussi de le raconter. On sent que de temps en temps aussi il se bride aussi au niveau de l'humour. Il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a des fois je me suis dit c'est Alexandre Astier quand même. Il pourrait être encore plus malicieux, il pourrait y aller encore plus à fond. Et tu sens que là, plus peut-être que pour le domaine des dieux, ça m'a c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai l'impression que celui-ci est peut-être davantage destiné aux enfants, malgré le méchant qui peut impressionner. Il ne faut pas oublier que, je veux dire, combien de films pour enfants on a eu avec des méchants qui faisaient peur. Donc, a priori, c'est pas un argument pour dire que le film est adulte. Moi, je pense qu'il est plus enfant que, peut-être plus enfant dans son enfantin dans son approche que le domaine des dieux. Et enfin, moi, la grosse réserve que j'ai, c'est comme Jérôme qu'on a entendu tout à l'heure, c'est sur le casting vocal.
Ah ouais.
En particulier celui de Christian Clavier. Autant Christian Clavier en live, je trouve qu'il incarne très bien Astérix, il y a pas de souci. Enfin, je veux dire, comparé après à Édouard Baird et Clovis Cornillac qu'on a eu.
Autant là, ouais, dans le doublage.
Autant là, dans
moi,
la
ça boîte, m'a sorti,
il
moi.
Est tellement identifié au film que, si tu veux, t'as juste l'impression de voir une version animée, on va dire, d'un film Astérix. C'est dommage, parce que je pense que pour le film d'animation, une voix effectivement type Roger Carrel. En même temps, voilà, Roger Carrel, c'était pas une première jeunesse, mais il arrivait tout de même à insuffler cette jeunesse qu'il n'avait plus, on va dire.
J'ai lu que Alexandre Astier avait sorti les rames pour faire revenir Roger Carrel en 2014. Il voulait plus, il travaillait plus, il avait plus envie. Il y est allé. Bon, après.
Mais il n'y a pas que Roger Carrel, enfin avec Astérix, quand même le doublage d'Obélix c'est vraiment pas bon.
Moi il y a un truc que j'ai bien aimé.
Il est assez faible.
Ah, mais moi j'ai bien aimé Obélix quand il est arrivé, il a fait sur qui je dois taper. C'est qui qu'il faut taper. Ça j'ai adoré.
Ça t'aimes bien ça.
Ah, moi j'aime bien quand il y a un gros monsieur qui veut taper.
Tu dis la même chose sur les films.
Mais non, moi, c'est Julien, s'il te plaît.
Mais tu vois, Clavier, je suis d'accord, mais au final, comme Astérix c'est pas le personnage principal du film, alors que ça s'appelle Astérix.
C'est vrai qu'il est très en retrait, c'est fou.
Finalement, ça m'a pas tant gêné.
Dans le Shabba, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il mettait en retrait Depardieu et Clavier, parce que, enfin, il faut l'avouer, ils étaient mauvais.
Ouais, mais Debout, c'était la superstar à l'époque, tu vois.
Oui, mais c'est surtout qu'il avait deux mauvais acteurs qu'il a mis en retrait parce qu'il y avait quand même plus intéressant.
Tu crois qu'il en était conscience de ça, Shabba?
Moi, je pense, ouais.
Bah, je sais pas. Hein.
Mais vocalement, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé les séquences avec les Romains, dont le centurion qui est doublé par Alexandre Astier, qui est face à ces Romains qui font limite des revendications syndicalistes, qui est un grand classique des Astérix.
Avec encore Elie Semoun.
Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça drôle.
Le grand ami de Pierre.
Mais non, mais j'aime bien Elie Semoun, mais il y a un moment, il faudrait un autre doubleur, quoi.
Mais alors, j'en revenais tout à l'heure, je disais le côté cartoon. Est-ce que même dans le tempo comique, parce qu'on parlait du rendu visuel, technique, mais dans le tempo comique quand même, c'est ça, moi.
Bah, c'est ce que j'ai apprécié, parce que t'as les deux premières séquences en fait qui sont entièrement muettes, qui ne sont basées que sur le visuel. Et là, je me suis dit, là, on touche à quand même quelque chose de fondamental. C'est quand même, on revient à des gags visuels, on revient avec de la narration où c'est la mise en scène qui parle, quoi. Et ça, au moins, je me suis dit, le film impose dès le départ quand même une qualité visuelle qui est pas négligée, je trouve.
Même il y a des lumières qui fonctionnent très bien. Techniquement, il a pas à rougir, je trouve, face à des grosses productions étrangères.
Alors, justement, sur la technique, moi j'ai quand même une réserve que j'avais déjà eue sur le précédent, c'est que les personnages manquent de poids. Je trouve qu'ils font un peu baudruche, si je peux me permettre.
Oui, c'est pas faux.
Tu vois ce que je veux dire, ça manque d'assises.
Il y a une lourdeur, enfin de.
Il y a moins de réalisme, c'est.
Non, mais. Enfin. Je sais pas si c'est gênant réellement, parce que on sait très bien comment l'animation des personnages, les cases, etc. Qu'on veut retrouver ça dans le médium animation 3D. Avec les bagarres, etc., les corps et machin. Mais voilà, j'ai toujours eu cette petite réserve sur les corps en mouvement, les corps même statiques. Je trouve que ça manquait de poids.
Tu veux dire que tu n'as pas suffisamment senti la densité des moustaches.
Oui, si on veut, ouais. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour.
Oui, oui. Déjà, on peut quand même saluer le fait qu'Astérix revient à l'animation et qu'on se débarrasse des films avec des acteurs.
Attends.
Pour le moment, ouais.
Bon, en tout cas, il a fait un démarrage exceptionnel. Hein. J'ai vu là 253 129 spectateurs pour son premier jour. Le Domaine des Dieux a fait 3 millions d'entrées France en 2014, plus 3 millions à l'étranger.
De toute façon, Astérix, c'est assez populaire à l'étranger. Mais c'est ça aussi l'esprit qu'avait su insuffler Goscinny Astérix. C'est un message qui est complètement universel, que tout le monde pouvait comprendre. Il y a même des albums d'Astérix en Indonésie ou au Vietnam où ils avaient l'impression que le village gaulois les représentait face à l'envahisseur. C'est totalement universel. Et c'est là où moi je pense qu'il faut se méfier un petit peu des adaptations qui vieillissent très vite quand elles veulent réinventer Astérix et s'inscrire pile poil dans leur époque. Tu vois, le Chabat, je trouve qu'aujourd'hui il est sympa. Bon, ça reste sympa parce que c'est Chabat, mais ça a pris un coup de vieux. Alors que les albums d'Astérix sont impérissables.
Oui, Pierrux, je suis totalement fâché contre toi. Il n'y a pas mieux que le Chabat.
Je tenais absolument à dire un petit mot sur le doublage de Sulfurix, qui est
le gars sur Itinéris, plus personne ne le comprend aujourd'hui.
Oui, moi, je le comprends et ça suffit. Hein.
Oui, donc un dernier mot sur le doublage Sulfurix, qui est assuré par Daniel Mesguich, acteur et metteur en scène de théâtre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il m'a fait penser à Jafar, un petit peu. Ouais. Voilà, qui était assuré à l'époque par Féodor Atkin.
Moi, il me faisait penser à Féodor Atkin.
Voilà. Alors, on se disait avant l'émission que je ne savais pas comment faire la transition entre le Domaine des Dieux et Mowgli, donc Ilan en a trouvé une très très bonne avant qu'on commence l'enregistrement.
Potion magique.
Je crains le pire.
Alors, je te la laisse.
Ah bah écoute, on va dire qu'on va passer de la Gaule à la jungle.
Eh ben c'est parti. En voilà un projet qui revient de loin. Nous l'attendions avec une très très grande impatience en salle. Eh bien non, c'est sur Netflix que cette nouvelle itération des écrits de Rudyard Kipling débarque. À l'origine, c'était Alejandro Iñárritu qui devait s'en occuper avant que Andy Serkis s'en empare. On vous passe tous les problèmes que le film a subis, hein, sortie repoussée, etc., etc. Bref, on peut enfin le voir sur un écran de téléphone ou sur sur une grande télé, c'est au choix. Mowgli, Jungle Books Origins, c'était le titre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains? Et je vais commencer avec Julien, vas-y.
Ouais, donc, le deuxième film live adapté de Rudyard Kipling après le film de Disney, qui était une espèce de simili-remake du film d'animation des années 50.
Il y a eu le film avec Jason Scott Lee aussi.
Oui, Stephen Sommers des années 90. Putain, ah, c'est vrai, j'avais oublié celui-là.
Bravo. Voilà. Toujours avoir un Pierre à son côté.
Donc
à ses côtés.
Un film qui était donc je reparle du remake de Disney, qui était un simili remake qui était à la fois, alors donc il voulait refaire le film d'animation mais pas trop, mais qui voulait faire un peu de Rudyard Kipling mais pas trop non plus, donc qui était un film qui n'avait aucune personnalité, qui avait un peu le cul entre deux chaises.
Merci Jon Favreau qu'on attend au tournant avec le Roi Lion d'ailleurs.
Et donc comme je répète, tu enlèves les effets spéciaux de Weta Digital et tu enlèves la lumière de Bill Pope, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un film de Jon Favreau.
Eh ben je n'ai pas vu ce film d'ailleurs, tu sais.
Bon, ouais. Pourtant ça a fait presque un milliard d'entrées.
Ah, je l'ai pas vu.
Enfin un milliard de recettes mondiales. Et là on a quand même, il y a un parti pris quand même, pris parce qu'on n'adapte pas le livre de la jungle tel qu'on l'a connu, donc à travers le film de Disney qui a beaucoup changé d'éléments, parce que, enfin, faut être honnête, hein, qui c'est qui a lu les livres du livre de la jungle?
Attention,
voilà. 1/4, donc ça fait un quart. Donc on peut supposer que c'est la même chose dans la population, et encore je vois large. Et donc là c'est quand même le premier film qui ose prendre des distances avec le canevas scénaristique habituel du livre de la jungle. Donc enfin je veux dire, moi vous attendez pas à ce qu'on découvre Balou qui chante le roi Louis qui n'aime pas. Enfin, il y a les singes, mais il n'apparaît pas, le roi Louis.
C'est une création de Disney, le roi Louis.
Oui, voilà. Donc, mais c'est ce que je disais, Disney a changé énormément de choses, et ce qui fait qu'on s'est habitué à ces éléments. Et là, c'est des éléments qu'on ne va pas retrouver. Ce n'est pas une espèce de road movie dans la jungle. C'est un film que je trouve, alors, un peu trop statique, géographiquement.
Ouais.
On a l'impression que la jungle est quand même réduite à une portion très réduite, alors que généralement, bon, quand tu penses à la jungle, tu penses un peu grand, quoi. Mais donc
ça manque d'ampleur pour toi déjà.
Enfin, d'ampleur un peu géographique, j'ai envie de dire.
D'accord. Okay.
Mais soyons directs. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié ce film qui n'a pas les effets spéciaux de Weta Digital, parce que je pense qu'il n'a pas coûté autant que le Disney qui avoisinait les 200 millions, je pense, ou 175.
Oui, bah c'est Disney, ils ont mis.
Et les effets spéciaux sont moins poussés. On voit des textures qui sont un peu plus faibles, des fonds verts qui sont pas super saillants. Mais voilà, on a une histoire quand même qui est beaucoup plus adulte, on va dire sombre. Mais je pense que le film est vraiment pas fait pour les gamins.
Non. Non, par exemple, non. Mais même Andy Serkis le dit. Hein, il dit, oui, c'est parce que pas pour les gosses.
Le Mowgli, il en chie un petit peu à un moment du film. Et je pense que les gamins, tu vois, il y a un peu de sang quand même.
Bah, c'est l'école de la vie, ça.
Oui.
Voilà,
oui,
non, mais
bah, oui, attends, ça va, faut qu'ils apprennent.
Mais il y a un point de vue, notamment sur la différence dans le film, où, notamment par rapport à Mowgli, donc qui n'est pas un animal, comme alors qu'il est élevé par les loups. Mais il y a son ami qui est, alors je sais pas si c'est de Rudyard Kipling ou si c'est inventé, le loup albinos.
Qui est doublé par, je ne sais plus, je l'avais noté, mais
je crois que c'est par le fils d'Andy Serkis.
Alors là, je la colle. Mince,
ouais, je confirme.
Et donc, qui amène cette thématique de la différence. Et j'avais lu une critique aussi qui comparait, qui disait que le film s'inspirait beaucoup du Seigneur des Anneaux, mais beaucoup trop. Par rapport au passage par les singes qui peut faire penser à la visite de la grotte de la Moréa, ouais. Où, bon, j'ai trouvé ça un peu exagéré, mais donc Andy Serkis quand même a fait ses armes de réalisateur sur le Hobbit,
ouais, en tant que,
il a été réalisateur de seconde équipe. J'ai envie de dire c'est quand même assez formateur. Et donc en termes de mise en scène, je trouve que le film est quand même pas mal tenu. Il y a des passages un peu plus faibles, mais généralement quand même le film a une belle dimension cinéma. On parlait de Outlooking, tu disais Thomas, que tu ne retrouvais pas cette dimension cinéma. Là, c'est vraiment un film que j'aurais voulu voir au cinéma, parce que je trouve que visuellement le film a cette patine cinéma, ouais. Et que ça méritait un grand écran.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'imaginais effectivement. Bah, j'ai la chance d'avoir un bon matériel à la maison, et j'imaginais effectivement le film sur l'écran du Max Linder, et j'avais un vrai film de cinéma. Tu vois, bon, voilà. Pierre,
à moi,
à toi.
Moi. Ce film est un mystère pour moi.
Ok.
Je ne parlerai pas de ce film, c'est une merde.
Non, mais c'est un film que je ne comprends pas. Déjà, je me suis posé la question. Vous y avez plus ou moins répondu. Apparemment, Andy Serkis a dit que c'était pas pour les enfants. Andy Serkis qui joue Balou, d'ailleurs.
Qui joue Balou, ouais.
Hein, qui est vachement bien, je trouve. Et
c'est un Balou très différent de ce que vous avez connu. Hein.
Je vais y venir. Bah, qui est un Balou un peu plus proche du Balou de Rudyard Kipling, qui était en fait l'entraîneur des jeunes loups. Une espèce de père adoptif pour Mowgli. C'est un film que je comprends pas, parce que déjà je sais pas à qui s'adresse. Moi, j'ai trouvé que le film était pas suffisamment mature dans ses thématiques pour me parler en tant qu'adulte, mais je l'ai trouvé entre guillemets trop adulte pour un public de jeunes à qui en général le livre de la jungle s'adresse quand même, en tout cas l'œuvre, parce que c'est le livre de la jungle de Rudyard Kipling, c'est comme une fable, c'est-à-dire que Rudyard Kipling s'intéresse pas à la vie des animaux ou à la jungle ou au darwinisme, non, c'est à travers des personnages d'animaux qui ont des comportements plus ou moins d'humains. On explique les travers de la société. Il y a plein de thématiques qu'on trouve chez Kipling. L'abandon, la dualité. Lui, c'est un Britannique qui a grandi en Inde. Mowgli, c'est un jeune qui grandit parmi les loups, mais qui est un homme. Il y a des thématiques comme ça. C'est aussi un roman qui est obsédé par les règles, par savoir quelle est sa place dans la société. Kipling est d'ailleurs un grand ami du fondateur des scouts. Petite anecdote qui s'est inspiré d'ailleurs des jeunes loups pour sa hiérarchie. Enfin bon, bref, donc il y a une idée de la hiérarchie très précise, et je trouve qu'on nous bassine d'ailleurs un peu avec ça dans le film, sur ces règles de la jungle, etc. Alors déjà, je trouve que c'est un film aussi qui est très long. Moi, je l'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs. Et ensuite, sur la technique, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la direction artistique. Parce que certes, le film n'a pas le budget de Disney, et ça se sent. Oui, les images synthèses sont peut-être moins performantes. Par contre, je trouve que c'est pas très beau.
Ah bon ?
Et moi, les animaux, je trouve qu'ils ont parfois vraiment des drôles de têtes. Je trouve que Shere Khan, il est carrément laid.
C'est vrai ?
Ah oui.
Shere Khan, Benedict Cumberbatch, tu penses que ça le fait pas ?
Et c'est là où j'attendais Andy Serkis, parce que c'est aujourd'hui le pape de la performance capture. Donc la performance capture. On met une espèce de combinaison, ouais. On capture tous les moments du visage de l'acteur, ses mouvements du corps, etc. Et on retranscrit ça en image de synthèse. On est entre l'animation et la performance d'acteur.
Et on devine les traits de l'acteur.
Et parfois, dans les designs animaux, on devine les traits d'acteur, notamment Benedict Cumberbatch. Mais je trouve que Shere Khan, ça lui fait vraiment une drôle de tête. Je trouve que le tigre est très moche. Je trouve que K.A., le personnage qui est doublé par Cate Blanchett, je trouve qu'il est très laid aussi. Et d'ailleurs, je reviens sur Cate Blanchett. Autant Benedict Cumberbatch s'en sort bien, autant je trouve que le doublage global, moi, m'a pas tellement plu. Je trouve que Cate Blanchett est pas terrible.
Ah ouais ?
Et oui, je trouve que Christian Bale en Bagheera surjoue.
Oui, Andy Serkis.
I am Bagheera.
Mais c'est un peu ça, franchement, c'est quasiment ça. Et oui, dans tous ces animaux, je trouve que le doublage est parfois assez limite. Et en fait.
Un doublage très anglais. Hein. Il y a beaucoup d'accent anglais là, du Royaume-Uni, je trouve.
Et là où je comprends pas tellement le film, c'est que je comprends pas ce qu'il veut dire. Parce qu'il a des thématiques sur l'appartenance, etc., qui font partie du livre de base. Donc, je veux dire, elles sont forcément là. Tu vois, il peut pas les trahir, ou alors c'est autre chose. On pourrait croire qu'il veut revenir à l'esprit du roman de Kipling pour laisser Disney de côté, mais en fait non, puisqu'il transforme totalement de récit, qui devient une espèce de fable ésotérique avec K, qui devient un serpent prophète mystique qui voit le passé, le futur. Mowgli devient l'élu qui rapportera l'équilibre dans la force, c'est quasiment ça.
T'as pas aimé Matrix, toi.
Et du coup, je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois, je comprends pas ce personnage de K, par exemple. Et il y a plein de rajouts que je pige pas du tout, c'est-à-dire qu'il nous rajoute ce chasseur occidental, John Lockwood. John Lockwood, c'est le père de Rudyard Kipling. Alors qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Et en plus, c'est un personnage qui, je trouve, n'a aucune importance dans l'histoire. Il amène une espèce de quête de vengeance avec les éléphants, qui sont aussi des espèces de figures mystiques. Ça sert à quoi?
C'est là où il y a un problème.
Il est inexploité, ouais. Comme
c'est là où il y a un problème, je suis d'accord.
La partie humaine est très flébarde.
C'est ça, c'est assez expédié. Vas-y, Ilan.
Moi, je constate que Pierre, depuis ce qu'il a dit sur Alain Chabat, a décidé de me contrarier. T'es vexant. Donc j'ai fait une liste de tous ceux sur quoi je ne suis pas d'accord avec toi, et la liste fait 3 pages à peu près. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, tout en lui reconnaissant des faiblesses. Effectivement, moi, je n'avais pas vu le livre de la jungle made in Disney, parce que de toute façon, je suis contre cette démarche qui vise à faire des versions live des dessins animés qu'on a déjà vus. Enfin, oui. Pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça manque d'identité, ça manque de corps, ça manque de toutes ces choses en fait que je retrouve dans ce Mowgli d'Andy Serkis. Il faut savoir qu'Andy Serkis, ce pourquoi il est connu, pour qu'on l'aime, c'est sa manière, sa prédisposition à humaniser des créatures, des figures qui sont mystiques ou pas, en tout cas des figures qui ne sont pas humaines. Il arrive à leur donner cette humanité, des précurseurs de ça. Et ça se retrouve énormément dans le bestiaire de Mowgli. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu, de toute façon, des animaux aussi humains. Les Bagheera, Shere Khan, Baloo, etc., pour moi, sont aussi humains que pouvait l'être César dans la trilogie de la Planète des Singes, la nouvelle trilogie de la Planète des Singes. Donc toute cette partie qui se trouve dans la jungle, ce récit initiatique de Mowgli, ses relations avec les animaux, effectivement, toutes ces dualités, toutes ces choses dont on a évoqué, qu'on a évoqué tout à l'heure, je trouve ça très bien traité. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la jungle, moi, je suis transporté. J'avais effectivement ce regret de ne pas voir le film sur grand écran, parce que je pense que sur grand écran, ça aurait eu de la gueule, si je puis dire. Et non pas de la gaule.
Voilà. Je t'ai
promis des jeux de mots, mais bon. Donc il y a cette ambition qui m'a beaucoup plu dans l'aventure, dans la partie jungle, à tel point que moi, j'étais très étonné de voir la durée du film qui était que d'1h45, parce que je me suis dit, pour un sujet pareil, moi ça m'aurait pas dérangé que ça dure 2h15 et que ce soit encore plus épique, qu'il y a encore même davantage d'ambition dans le récit. Alors effectivement, c'est peut-être plus à taille humaine entre guillemets, et là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, donc bon, ça, c'est une petite frustration que j'ai eue. Par contre, voilà, toute la partie humaine, je trouve qu'aussi bien, autant Andy Serkis s'en sort très bien avec les animaux, avec la partie, avec les personnages des animaux, autant on sent que les personnages des humains, c'est quelque chose avec lequel il n'est pas à l'aise, limite il s'en fout. Je veux dire, ne serait-ce que le personnage, non pas le personnage, mais plutôt l'acteur qui joue Mowgli, Rohan Chan, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Il est un peu problématique, le garçon, quand même.
Je suis pas d'accord.
Je trouve qu'il surjoue. Il grimace.
Regarde le Disney, le gamin a l'air plus cartoon que les animaux.
On parle du dessin animé. Moi, je te parle du film.
Je te parle du film de Disney.
Mais pourquoi tu veux me faire voir des films que je veux pas voir? Tu m'aimes pas ou pas?
Mais dans le Disney, le vrai problème, c'était le gamin qui surjouait total. Je dis pas que l'acteur est génial.
Non, mais moi, il
est toujours et je me suis intéressé à lui.
Je trouve qu'à un moment donné, il commence à un peu trop grimacer, un peu trop surjouer. Ça m'a sorti, parce que
tu l'as vu avant moi, tu m'en as parlé, et moi j'ai pas trouvé qu'il surjouait tant que ça. Franchement, j'ai trouvé
un regard,
j'ai trouvé quand même assez sobre. Et
on n'a pas la même définition du mot sobriété.
on est à moitié plein, à moitié vide.
Mais mis à part le gamin, le traitement des personnages humains frise le zéro. Le personnage du chasseur interprété par Matthew Rhys, qu'on connaît de la série The Americans, c'est un personnage. Tu sais pas si le mec est enfin, on va dire gentil entre guillemets ou méchant, ou s'il est ambigu. On connaît pas vraiment ses motivations.
C'est le dernier tiers du film.
Mais qui aurait pu être très intéressant.
Mais il aurait pu être super intéressant.
Ça aurait pu
être l'équivalent de Woody Harrelson dans le dernier La Planète des Singes. Il aurait pu avoir cette ambivalence que moi j'aimais beaucoup dans le dernier La Planète des Singes. Tu amènes un type intéressant qui a du bagage, qui a quelque chose si tu veux. Là c'est un personnage qui n'est ni écrit ni à écrire.
C'est un chasseur qu'on voit jamais chasser en fait.
Voilà.
Non mais c'est vrai, c'est quoi, je me suis dit, on nous présente comme le chasseur et en fait on le voit jamais chasser dans le film. Je me suis dit c'est quand même bizarre ce truc. Ce qu'il y a, c'est comme tu dis, ces derniers temps, c'est les 10-15 dernières minutes,
j'ai l'impression que tout
est accéléré et c'est hyper ramassé, et du coup
on n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'on n'a pas eu le temps de...
Ça fait une frustration parce que comme dit, le personnage du chasseur a pu amener quelque chose, parce qu'il y a une scène qui, où carrément la dimension du personnage change du tout au tout. Et c'est évacué très très vite, alors que cette scène est vraiment, alors quand je dis que c'est pas un film pour les gamins, je pense que cette scène pourrait être très traumatisante
pour les gamins.
Même moi en tant qu'adulte, je me suis dit oh non, j'étais pas bien quoi.
Et puis le personnage de Freda Pinto qui n'existe absolument pas, qui n'a aucun dialogue, elle ne parle pas. Donc il y a un vrai problème là-dessus. C'est-à-dire que moi je pense qu'un Mowgli qui aurait été situé que dans la jungle et qui aurait été vraiment ce récit initiatique sur comment Mowgli devient vraiment le roi de la jungle, et avec une vraie ampleur, pas ambition, parce que l'ambition elle est là. Il y a un côté rugueux, il y a un côté très frontal que moi j'aime beaucoup dans ce film. C'est pour moi, des fois, ce film tient plus du survival que de l'adaptation.
Il y a de la poésie quand même, non?
Oui, mais il y a de la poésie, bien sûr, il y a de la poésie, mais pour moi, ça tient plus. C'est une interprétation personnelle. C'est-à-dire que je pense que s'il avait vraiment tendu vers le côté survival pur, bon, moi, je dis ça parce que je suis un fan de Rambo et que j'aime les trucs qui se passent dans la jungle avec les trucs musclés, mais ça aurait pu donner encore plus de coffre, entre guillemets, au film.
Et pourtant, Alfonso Cuarón a donné un coup de main.
Ouais, c'est vrai.
Andy Serkis,
ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu sur le. Alors, je sais pas si c'était la post-prod, je crois que le film était déjà tourné, ou il était en finalisation, mais Alfonso Cuarón a donné un coup de main à Andy Serkis.
Mais il aurait peut-être dû en donner plus d'un.
Oh ah non, toi c'est. Ouais, non.
Non, mais on est d'accord que c'est pas moche quand même, visuellement.
Moi, je trouve que c'est tourné en décor réel. Hein.
Je trouve que la direction artistique est laide. Vraiment, les animaux, je les trouve pas beaux du tout, quoi.
Mais c'est quoi? Moi je suis pas d'accord.
J'aime
parce
pas
que...
quoi
pas les hyènes. Parce que la hyène est voulue très très moche dans le film.
Ouais, bah, rien à voir. Je trouve que tous les animaux sont moches. Quoi.
Non mais.
C'est compliqué d'avoir un rendu de bestiaire en prise de vue réelle, tout en sachant que c'est de l'animation en image de synthèse, en performance capture. Je trouve que justement là, il y a cette distance entre le réel et effectivement l'animation, l'image de synthèse. Il y a juste ce qu'il faut en fait. Le dosage est très bon pour moi. Et j'attendais justement que, en voyant le casting voix, qu'on devine les traits aussi des acteurs derrière. Moi, je trouve que Christian Bale, pour le coup, ça le fait vachement. Benedict Cumberbatch, moi, j'avais adoré sa performance dans
Smaug,
en tant que Smaug dans The Hobbit. Et là, pour Shere Khan, moi, je l'ai bien aimé aussi. Hein. Je trouve qu'il il est plutôt réussi.
Honnêtement, je veux pas enfoncer le film totalement. Je veux dire, c'est pas une merde. Je lui reproche beaucoup de choses, mais il y a quelques scènes qui sont pas mal. Mais je ne vois pas. Et là, je vais être très méchant. Je vois pas à quoi sert le film. Parce que si tu veux, oui, c'est dur. Parce qu'en fait, Andy Serkis, il est possible que ça ait été un projet
qui est douloureux,
qu'il ait une vraie passion pour le film. Hein. Il l'a porté pendant des années. Ça a été retardé, etc. Il avait sans doute plein d'ambitions avec ses animaux. Il voulait certainement porter la performance capture encore plus loin. Mais sur le livre de la jungle, parce que c'est une adaptation du livre de la jungle, je ne vois pas ce que ça apporte vraiment, en fait. Il y a des différences. Mais si tu veux, des films du livre de la jungle, en fait, il y en a eu beaucoup, hein, à travers les âges. Évidemment, le dessin animé de Disney, le premier, on l'a tous vu enfant et il reste dans les mémoires. Et d'ailleurs, je le trouve très, très bien. Mais Ce film, déjà l'histoire on la connaît, même si elle est racontée différemment, on la connaît. Donc déjà je trouve qu'il n'y a pas grand chose, en tout cas du point de vue du grand public, à mon avis il n'y a pas grand chose de surprenant. Je pense que beaucoup de choses sont même carrément attendues. Moi, thématiquement, ça ne m'a pas montré quelque chose de vraiment nouveau ou passionnant. Il y a des passages qui ne servent à rien, l'ajout de ce chasseur, en plus de donner le nom du père du Rayard Kipling, je trouve que ça ne sert à rien. Je trouve que les animaux sont soit très classiques, soit, moi je comprends pas K qui voit l'avenir, je vois pas en quoi c'est un prophète. Donc du coup, ce film, en fait, j'ai du mal à m'imaginer que les gens le regarderont encore en quelques temps. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va disparaître.
Alors, moi, ce que j'ai l'impression sur le film, la grille de lecture qu'on peut donner au film, c'est que pour moi, c'est un livre de la jungle beaucoup plus traumatique, entre guillemets, que les autres adaptations qu'on a vues. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, Mowgli qui en chie, Baloo, c'est... allez, je vais grossir le trait, mais c'est juste pour les références fun, mais c'est un peu le soldat de full metal, l'entraîneur de full metal jacket version jungle.
Ouais, c'est ça même.
C'est il y a des choses qui sont extrêmement extrêmement traumatisantes, ouais, même sur
le personnage de Peter Mulan qui est le père loup, en fait, qui on le présente toujours dans les autres films comme le père un peu dur qui s'en fout un peu de Mowgli, là qui a une dimension un peu politique et que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Dans Disney, l'original, c'était ça aussi, plus ou moins. Hein. Sauf que revu à la baisse parce qu'on s'y attardait moins. Hein.
Bon, bah voilà. Bah, ce sera le mot de la fin, on s'y attardait moins. Voilà, tout simplement. Allez, merci à Jacques, 10 ans, Blanche, 4 ans, Gaspard, 13 ans et leurs parents, ainsi que Jérôme ou encore Ayman pour nous avoir accordé quelques instants au micro de Séance Radio en sortie de salle. Je voulais également, au nom de toute l'équipe, les copains, nous allons faire un gros bisou à Polo Exi sur Twitter qui nous a cité parmi sa liste favorite de podcast, ses recommandations.
Et il a bien raison.
Et voilà, et on est à côté en plus d'un gros big up également aux autres podcasts cités parce que c'est des podcasts assez prestigieux, donc on est très fiers. Merci
beaucoup.
Merci Polo. Merci Polo. Pour nous retrouver sur toutes les applis podcast, vous le savez, iTunes, Podcast Addict ou encore sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner et sur SoundCloud également. Sur Twitter, @fin2_séance ou #fin de séance. Voilà, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous remercier les copains. Pierre Delors de funfootage.fr. Écoute, on va te laisser aller te reposer.
Oui, je vais aller me coucher, je crois que j'ai encore un peu de fièvre. Je suis désolé.
Ça se sentait dans tes interventions.
Parce que j'ai une passion fiévreuse pour ce que je racontais, c'est ça?
Non, t'as pas plombé le podcast, ça va. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr, gros bisous.
Bah, bisous de même.
On vous retrouve sur cinévibe.fr et sur Twitter.
Cinévibe.fr sur Twitter.
Voilà, très bien. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler de deux très grosses sorties ciné que nous attendons particulièrement ici, une fois de plus, puisque nous allons parler de Spider-Man et de Mortal Engines. Et je pense que là, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Hein.
Du lourd.
On attend beaucoup, oui.
Et bien, d'ici là, on vous fait de très gros bisous, on vous souhaite un bon cinéma et on vous dit à très vite, les copains.
Bisous.
Ciao.
Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.